Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous Happy Boulot sur BFM Business. Au programme Attirer les talents grâce à la RSE. Est-ce que ça fonctionne? C'est l'objet de notre discussion avec le DRH de la semaine, William Edel, pour l'agence de voyage d'affaires Wagram. Dans cette émission, Jeanne, on répond aussi aux questions de nos auditeurs.
Questions que vous nous posez et nous envoyez sur happyboulot@bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, on va parler propriété intellectuelle des employés avec l'avocat Pascal André Gérigné.
Comment retenir les employés de première ligne? Ce sera le sujet de notre focus. Sans oublier en fin d'émission la carte blanche d'Adeline. Cette semaine, on va faire la connaissance de la DRH qui espionne ses salariés sur LinkedIn. Allez, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Oui, alors pas seulement DRH, hein, parce qu'il est aussi le patron de son entreprise. Bonjour William Edel.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes le PDG de Wagram, également en charge donc des ressources humaines. C'est pour ça que vous êtes à cette place aujourd'hui dans Happy Boulot. Wagram, en un mot, spécialiste des voyages d'entreprise, voyages d'affaires.
Oui, c'est une agence de voyages d'affaires qui facilite la vie de ses clients en gérant leurs déplacements professionnels et en leur donnant du sens.
C'est familial comme entreprise ?
C'est une agence familiale qui a été créée par mon père il y a 40 ans et que j'ai reprise il y a quelques années. Exactement.
Georges Edel. Tout à fait. Une entreprise avec des valeurs cardinales de bien-être que vous avez aussi voulu mettre au cœur de votre ADN. C'est ce que vous mettez en avant. Je suis allé voir aussi les offres d'emploi. À chaque fois, ça revient dans ces offres.
C'est important. Ça me rappelle, il y a quelques jours, là, je rencontrais donc quelqu'un qui travaille avec nous, une collaboratrice qui est chez nous depuis 35 ans. Elle est arrivée chez nous, recrutée par mon père, justement, qui avait créé cette agence familiale il y a une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, elle est encore là. Donc, elle travaille avec moi. Elle a travaillé avec mon père, avec confiance. La confiance, je crois que c'est le maître mot, quand même, dans les relations qu'il peut y avoir entre des collaborateurs et c'est leurs employeurs. Et derrière, ça joue aussi sur les clients qui doivent évidemment être satisfaits, être heureux, et ça passe par des collaborateurs heureux. Alors c'est un peu le monde des bisounours ce que je vous raconte là, mais
non, mais est-ce que c'est un objectif, par exemple, de garder les talents, de faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible, ou est-ce que vous saluez aussi le turnover, le renouveau dans vos équipes?
Non, garder les talents, c'est majeur. C'est vrai que cette Catherine qui est là depuis 35 ans, c'est l'illustration parfaite en fait chez Wagram Voyage de cette qualité de vie au travail qu'on peut avoir. Avec, si on veut un client heureux, il faut un collaborateur heureux, et ça passe par le fait de les impliquer, ça passe par le fait de les responsabiliser, ça passe par le fait de donner du sens à leurs actions. Donc ça c'est
de maintenir l'implication sur la longueur aussi.
Oui, donc on les responsabilise en leur donnant des rôles, des missions. C'est par exemple un responsable de la Green Team qui se réunit chez nous tous les mois, je crois.
Ça, c'est des postes nouveaux, d'ailleurs. J'imagine ça n'existait pas il y a 20 ans.
Ah, et ça c'est
assez Catherine récent. Est arrivée dans l'entreprise, quoi.
Nous, c'est juste pendant le Covid, en fait, on a transformé l'entreprise. Et donc, cette Green Team est arrivée. Il y a un comité des fêtes qui est arrivé. C'est vrai que ça a transformé beaucoup de choses. Ça responsabilise les gens. Et encore une fois, ça les rend heureux et fiers d'appartenir à la société.
On fait quoi dans cette Green Team?
Alors, cette Green Team, on établit des plans d'action pour savoir comment améliorer notre bilan carbone aussi à nous, comment améliorer la relation avec nos clients sur les problématiques d'éco-responsabilité. Donc, c'est quand même assez fourni et ça va assez loin. Ouais.
Parce qu'en même temps, alors, vous êtes dans une industrie qui est polluante, qui a été beaucoup décriée ces derniers temps. Il n'y a pas un côté schizophrène à mettre la RSE au cœur de votre politique RH? Comment vous arrivez à le justifier?
Alors, il faut savoir que quand un voyageur d'affaires fait 1000 km avec nous, on plante un arbre. On a des dizaines de milliers de voyageurs d'affaires qui font des millions de kilomètres en avion, et du coup on a des dizaines de milliers d'arbres qui sont plantés chaque année. Donc ça, c'est le côté vertueux, si je puis dire.
Ça, c'est de la compensation. Beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui.
C'est la réduction
d'impact. Aujourd'hui, on attend aussi
d'aller plus loin.
C'est la réduction d'impact. Vous voyez, je parlais par exemple avec un industriel qui est un de nos clients. C'était la semaine dernière. Il me disait, voilà, je dois aller à Sao Paulo pour défendre un projet dans le cadre d'un appel d'offres international. Je dois amener des ingénieurs là-bas, à Sao Paulo. On est quatre. C'est une industrie très pointue avec des, ils fabriquent des turbines. En France, il y a 200 personnes. Il dit, si je ne vais pas là-bas défendre mon projet, si je ne vais pas là-bas montrer mon savoir-faire et porter le projet, je ne vais pas avoir le projet. Si je n'ai pas le projet, mon industrie, qui est basée en France, risque de capoter et les 200 personnes qui travaillent dans cette industrie, finalement, bah, risque de se retrouver au chômage ou dans la panade, et c'est 200 familles qui sont touchées. Donc du coup, c'est pas si simple en fait.
Bien sûr.
C'est pas si, on peut pas dire le voyage c'est mal, parce que derrière il y a une problématique humaine.
Mais on sait que c'est une activité comme un certain nombre d'autres activités qui ont beaucoup souffert pendant le Covid, avec le confinement, avec l'arrêt justement des voyages d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui on a autant envie de rejoindre une entreprise comme la vôtre que par le passé?
En fait, je pense qu'il faut, au-delà de la mission, au-delà du contrat de travail aujourd'hui qu'on peut proposer, il faut qu'il y ait une sorte d'écosystème de valeur. Il faut qu'il y ait du sens à ce qu'on propose.
Oui.
Donc, du coup, aujourd'hui, on a un partenariat, justement, avec une société qui nous, ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait qu'on va développer les forêts françaises qui sont dans le Morbihan. On a notre forêt Wagram. Cette forêt, eh ben, ces arbres, ensuite, sont donnés à nos clients qui les achètent. Qu'ils achètent obligatoirement. C'est vrai qu'on leur laisse pas le choix. It's not an option, comme on dit en anglais. Ils achètent ces arbres et ce sont des actifs pour eux écologiques, ce sont des actifs économiques. Donc ça, c'est un ensemble de valeurs qui sont pour nous vitales, à mon avis, si on veut donner du sens à l'action, au-delà du contrat de travail pur et dur. Quoi,
voilà. Et vous travaillez avec quels acteurs, justement, pour tout ça? Parce qu'on sait que planter des arbres, c'est le début de la solution. Enfin, ça fait pas tout non plus. Et il faut bien le faire. C'est-à-dire, il faut planter les bonnes essences aux bons endroits. On plante pas un pin, je sais pas, à 3000 mètres.
Exactement. Alors, planter des arbres, c'est une chose, parce qu'on a ce partenariat important avec Ecotree, si vous voulez tout savoir.
Oui.
Qui est une société très sérieuse. Mais on a aussi nos conseillers voyage qui sont formés. Ils sont formés à proposer, par exemple, le train, quand on peut proposer le train, sur des destinations comme Bordeaux, comme Nantes, comme Montpellier, comme Marseille. Et pour nous, ça, c'est la base, parce que le train pollue 100 fois moins que l'avion. Donc, c'est vital. Ensuite, on a
les vols directs. Oui, il y a pas que l'avion, bien sûr.
Les vols directs. Parce que souvent, vous pouvez aller à New York, vous pouvez faire un Paris-New York en passant par Madrid ou en passant par Lisbonne. Et ça, évidemment, c'est moins cher. Ça peut être moins cher, de 20 ou 30%, mais ça pollue beaucoup plus.
William Edel, on arrive au bout de cette interview. Il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager vous êtes. C'est la nouvelle rubrique de cette séquence depuis la rentrée. On va vous amener une boîte. C'est Marianne qui va vous l'amener tout de suite, dans laquelle il y a des petits papiers à compléter. Marianne, venez nous amener la boîte du DRH, du patron, du PDG aujourd'hui, et vous allez pouvoir piocher un premier papier, nous compléter la phrase.
Dans ma boîte, l'intelligence artificielle, c'est...
Elle revient souvent, celle-là.
C'est pour moi un booster, c'est facilitateur pour accélérer les liens entre nous et notre public et nous et nos clients.
Vous l'utilisez comment aujourd'hui?
On l'utilise comme ça, justement, pour c'est une aide au jour le jour, pour aller plus vite dans la collecte de données pour l'instant.
Très bien. Allez, on en prend un second, si vous voulez bien. Autre phrase à compléter pour essayer de savoir... un peu mieux quel patron vous êtes.
Dans ma boîte, je recherche des candidats qui sont sérieux sans se prendre au sérieux.
Et vous les trouvez?
On les trouve, ouais. On les trouve en leur donnant un peu de sens, en ayant une mission bien construite, on les trouve. Ouais.
C'est des juniors, c'est des seniors ou...
Il y a vraiment toute la palette.
C'est parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, William Edel, PDG de Wagram Voyage. Merci beaucoup. Tout de suite, Jeanne appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on appelle tout de suite Pascal André Gérinier, avocat associé gérant chez Mosaïque, pour répondre à cette question sur la propriété intellectuelle. Mon employeur peut-il librement utiliser les créations que je fais dans le cadre de mon contrat de travail ?
C'est une question intéressante puisqu'elle met en œuvre les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est un droit de propriété sur des créations à condition que celles-ci soient originales. Alors, des créations originales artistiques dans le cadre d'un contrat de travail, par exemple, ça va être la rédaction de textes, des images, des photos, la création de logos, mais ça peut être aussi des développements informatiques, logiciels ou applicatifs. Alors, par principe, il faut solliciter l'autorisation explicite et préalable de l'auteur sur ces créations. Cette autorisation peut être délimitée en fonction des territoires, des modes d'exploitation, de la durée. En contrepartie de cette autorisation, normalement, une rémunération peut être prévue, c'est pas obligatoire, mais si une rémunération est prévue, attention, le forfait qui est souvent pratiqué n'est pas toujours possible. Il faut aussi regarder son contrat de travail, puisque souvent dans les contrats de travail, une clause générale est prévue, elle est parfois trop large, et donc elle est critiquable juridiquement. Et enfin, soyez vigilants, puisqu'un régime dérogatoire existe en matière logicielle et développement informatique, où là, c'est l'employeur qui a tous les droits dès l'origine du fait du contrat de travail.
Merci Pascal-André Girinier, avocat associé, gérant chez Mosaïque. Continuez à nous écrire à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
On a énormément parlé des employés de première ligne pendant le Covid, bien sûr, en disant combien ils étaient essentiels. Mais est-ce qu'ils sont mieux considérés véritablement aujourd'hui? Est-ce qu'on se soucie du bien-être des employés de première ligne? On en parle dans ce focus avec nos invités qui nous ont rejoints. Bonjour Bernard Vivier.
Bonjour.
Directeur à l'Institut supérieur du travail, grand spécialiste du dialogue social. Vous intervenez très régulièrement sur BFM Business pour partager avec nous votre expertise. Et face à vous, Caroline Montaigne, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de la Harvard Business Review, bimestrielle. Le nouveau numéro est ce week-end en kiosque, avec un gros dossier justement sur les employés de première ligne, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans Happy Boulot. C'est votre grand dossier. Qu'est-ce qu'on va y découvrir d'abord?
Alors on va y découvrir tout d'abord pourquoi négliger ces emplois de première ligne peut coûter cher à l'entreprise. On sous-estime souvent l'impact en fait de cette négligence de ces emplois de première ligne. D'abord l'impact sur le turnover et les coûts cachés du turnover. Aujourd'hui il est estimé que 10 à 25% des coûts globaux de la main d'œuvre c'est lié justement à ce turnover pour ces emplois de première ligne. D'autre part en fait souvent quand on néglige ces emplois de première ligne, qu'est-ce qui se passe? Eh ben la productivité diminue, la qualité du service client est moins importante, est moins élevée, les produits sont de moins bonne qualité également, et les entreprises ont du mal en fait à attirer et fidéliser ces emplois de première ligne. Et ça a des conséquences en termes d'impact business.
Bon, c'est une revue internationale, hein, Harvard Business Review. Est-ce qu'il y a une spécificité française là-dedans?
Alors oui, il y a une spécificité française. Par exemple, il y a des entreprises qui font différemment pour justement... prendre en compte davantage ces emplois de première ligne.
Des entreprises françaises?
Oui, des entreprises françaises. Par exemple, en tête, j'ai deux noms. J'ai Picard, également, par exemple, qui est une entreprise en fait, qui a 95% de ses salariés en magasin, sur ses 1100 magasins en France. Alors, il faut savoir que c'est des magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, avec une amplitude importante en termes d'horaire. Ces salariés n'ont aucun pouvoir sur les prix, les promotions, les produits. Donc, où ils peuvent avoir quelque chose à avoir, en fait, à avoir l'impression d'avoir une marge de manœuvre, c'est sur la relation avec le client. Et donc, 90% de la formation, en fait, des salariés en magasin, c'est sur justement cette relation client.
Et ça, c'est nouveau, c'est récent, c'est une des conséquences du Covid ou c'était déjà le cas avant?
Alors, ça a été progressivement mis en place parce que justement, il faut prendre en compte davantage ces salariés, leur donner l'impression qu'ils ont une marge de manœuvre et qu'ils sont importants.
Bernard Vivier, est-ce qu'on observe des changements? Parce que vous regardez tout ça, le dialogue social, etc. Est-ce que après la crise qu'on a connue suite au Covid, les comportements aussi ont changé des employeurs à ce niveau?
Non, pas véritablement.
Ah, donc, la période, c'est un petit exemple, mais finalement...
Oui, la période Covid a mis en exergue l'expression « les salariés de première ligne », ceux qui étaient vraiment nécessaires, essentiellement dans les transports et le soin. Bien. Mais n'oublions pas que dans une entreprise, il n'y a pas une ligne, puis à côté une deuxième ligne, et puis une troisième ligne, une quatrième ligne. C'est un continuum, une entreprise, tout le monde est utile. Donc la question... Comment retenir les employés de première ligne s'applique à l'ensemble des salariés. Mais il est vrai que dans des métiers en tension, dans des entreprises où il y a des salaires, des bas salaires, eh bien ces populations de proximité avec le travail lui-même sont souvent dédaignées. La question de fond, elle est double. La réponse, elle est double. Un, les rémunérations, la formation, ça vient d'être dit. Et puis deuxièmement, un management de proximité. Aujourd'hui, les directeurs des ressources humaines, des relations humaines, sont très souvent au-dessus d'eux, en surplomb, la direction des achats. Et qui achètent les compétences, la formation. On n'achète pas les compétences si on veut bâtir une entreprise, on les attire. Et donc c'est quelque chose de très important de donner à ces personnes de proximité du pouvoir, c'est-à-dire les salariés, leur donner envie de rester, et les managers de proximité, leur donner aussi le droit de gérer leurs équipes.
Mais on n'y arrive pas, donc c'est ça que nous dit Bernard Vizier.
Non, parce que nous avons une vision très technocratisée et financiarisée de l'entreprise, qui est perçue davantage que par le passé comme un lieu de production et pas comme une communauté active.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ?
Redonner du pouvoir aux agents de proximité et faire des DRH, non pas des substituts de la direction financière, mais de vrais acteurs. Dans des entreprises familiales, patrimoniales, c'est naturel. Le patron, il embauche, c'est son entreprise. Dans une grande entreprise ou une moyenne entreprise, ben c'est un peu dilué.
Ce sont les ressources humaines qui ont un grand rôle à jouer là-dedans.
Oui, et les managers et les ressources humaines, parce que jusqu'à présent, on a mis beaucoup en place des politiques pour attirer, retenir les cols blancs, mais très peu les cols bleus, voire pas du tout en fait. Et souvent, les entreprises pensent que le gros turnover, ce turnover important chez les cols bleus, est finalement structurel. Ils ont un faible moral, ils ont un turnover qui est structurel sur ces populations-là, alors que ce n'est pas vrai du tout. Ils ont envie de rester, ils ont envie d'évoluer, mais souvent, ils n'ont pas de visibilité du tout sur les parcours d'évolution professionnelle, et le manager a un rôle pour justement amorcer le dialogue plus facilement et qu'ils aient beaucoup plus de clarté
et sur de considération.
Et de considération, effectivement. Oui. Oui, tout à fait.
Bernard Vizier, le rapport avec cette population de salariés, il est si compliqué qu'aujourd'hui, les employeurs ont du mal à les convaincre de venir dans des secteurs en crise. La restauration depuis le Covid n'est pas revenue, enfin, c'est-à-dire que les clients sont revenus, mais pas les serveurs.
Oui, et c'est ce qu'on appelle les métiers en tension, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, même en dehors du monde des salariés. Regardez les infirmiers libéraux, les médecins. On manque de médecins partout en France, des panonceaux. Venez dans notre commune, nous vous offrirons un logement signé le maire de la commune de 1000 habitants ou 2000 habitants. Des chaudronniers, des enseignants. L'éducation nationale souffre cruellement d'enseignants. Donc c'est un peu une question de rémunération, mais c'est beaucoup une question de management.
Là, l'employeur, c'est
l'État. Eh bien, c'est l'État qui n'est pas forcément le meilleur employeur en France.
On n'est pas forcément, c'est pas très happy boulot, pas toujours. Il y a encore une marge donc pour l'employeur entre la volonté de faire mieux et la mise en application des bonnes pratiques. En réalité.
Oui, absolument, parce qu'en plus, le fait de ne pas pouvoir retenir ses salariés, c'est un impact business, comme le dit Bernard Vizier. C'est-à-dire que, par exemple, des chaînes de pharmacie aux États-Unis ont décidé de réduire leurs heures, leur amplitude d'ouverture, et de fermer le dimanche parce qu'elles manquaient de salariés. Domino's Pizza, par exemple, donne $3 aux clients qui viennent eux-mêmes chercher leur pizza, parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'amener les pizzas forcément chez les clients. Et Qantas, qui est la première compagnie aérienne australienne, a demandé à tous ses cadres supérieurs pendant 3 mois d'occuper l'emploi de bagagistes. Non pas pour leur faire expérimenter cet emploi-là, mais parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Donc ça a des impacts directs sur le business, en fait.
Comment on fait pour améliorer tout ça ? Il nous reste 2 minutes, on veut des solutions, Bernard Vizier. C'est quoi ? Donc l'organisation du travail, la promotion, le salaire, les feedbacks, tout ça, hein, il faut mettre, c'est tout ça en même temps.
C'est tout cela. Et dans la tête d'une direction générale, et l'étude qui est sortie jeudi dans la revue le montre bien, c'est de bien mettre en vis-à-vis le coût de l'achat de main-d'œuvre, j'utilise le mot achat de main-d'œuvre, et le coût du départ de main-d'œuvre. Les démissions, l'absentéisme, tout cela, ça coûte cher, c'est bien mentionné dans l'étude. Et donc, il est important de considérer que c'est pas simplement le personnel, les salariés ne sont pas un coût de production, ils le sont comptablement, ce sont aussi des investissements, des engagements. Je me répète, on n'achète pas les compétences, on les attire.
Il faut les voir plus comme ça.
Exactement. Ouais. Ce sont eux qui font la richesse. Mmh. On dit que les hommes font et les femmes font la richesse des nations. Les hommes et les femmes font aussi la richesse de l'entreprise.
Caroline Montaigne. Sur ce constat, vous le partagez ?
Oui, alors absolument, effectivement, comme vous le disiez, il faut faire évoluer. Il faut donner vraiment de la visibilité sur les parcours en fait, de formation, faire du mentorat, donner le sentiment qu'ils sont pris en compte et qu'ils ne sont pas en bas de l'échelle, justement, qu'ils sont impliqués dans toute la stratégie de l'entreprise. Et j'aime bien, en fait, cette citation de Douglas McGregor, qui est professeur au MIT, qui dit, en fait, un mauvais emploi, en fait, va créer un mauvais employé. Et tout ce que pensent les managers se réalisera toujours parce qu'ils mettent en place, ils créent des systèmes qui précisément favorisent le comportement attendu. C'est comme une prophétie automatisatrice.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut ? C'est quoi l'électrochoc qu'il faut pour que tout ça soit mis en œuvre ? Si le Covid, qui a quand même été une crise planétaire, n'a pas suffi ?
Le Covid a été un moment. Nous avons d'ailleurs même pratiquement aujourd'hui oublié quand ça a démarré, quand ça a fini. Oui. Se souvient-on vraiment qu'il y avait eu 3 période de confinement, on a effacé ça. Ça a été une période qui a mis en valeur davantage un certain nombre de phénomènes, par exemple le télétravail, un certain nombre de réorganisations, mais c'est un moment, le Covid. Notre vie dans les entreprises, elle est sur une trajectoire beaucoup plus longue.
On n'apprend pas des erreurs, hein, parce qu'on parlait du monde d'avant, du monde d'après, finalement.
Non, il n'y a pas de monde d'avant, il n'y a pas de monde d'après, c'est un monde, ouais. On continue.
Bon, mais qu'est-ce qu'il faut alors? J'aimerais bien, il nous reste 30 secondes, on peut avoir une solution.
Alors moi, je peux donner le cas de Disney aux États-Unis qui a mis en place depuis 2018 un programme qui s'appelle Aspire. Et en fait, il finance les frais de scolarité pour décrocher le bac ou faire des études universitaires pour leurs salariés de première ligne. Alors, ça a l'air de rien, mais en fait, 14 000 employés sont dans ce programme, 13 500 sont déjà sortis. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que 25% des postulants chez Disney disent que s'ils viennent chez Disney, c'est notamment en partie pour ce gros programme-là qui va permettre de les élever. Donc ça peut passer par l'éducation, en fait, par les diplômes et aussi par plus de visibilité sur les parcours d'évolution.
On y arrive petit pas par petit pas. Finir par y arriver ou pas ?
Oui, bien sûr, parce que l'économie est formidable. Les bonnes entreprises se développent, les moins bonnes s'écroulent. C'est la loi du marché. La concurrence a ses vertus. Et dans la dynamique...
Est-ce que les bonnes entreprises sont celles qui traitent bien leurs salariés ?
Mais bien sûr. On n'est jamais assez riche de salariés motivés, qui en donnent, comme on dit, et qui sont bien rémunérés. Il n'y a pas de miracle en la matière.
Merci beaucoup, Bernard Vivier, directeur à l'Institut supérieur du travail, et Caroline Montaigne, rédactrice en chef de la Harvard Business Review. Je rappelle que c'est un dossier qu'on retrouve dans le numéro à paraître ce week-end. C'est déjà dans vos kiosques. La Harvard Business Review qui sort tous les 2 mois. Et on continuera à fouiller un petit peu les sujets que vous mettez en avant aussi dans cette revue dans Happy Boulot. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche tout de suite de la TikTokeuse Adeline. On fait aujourd'hui la connaissance de la DRH qui espionne ses employés sur LinkedIn.
Happy Boulot, carte blanche.
Alors, quoi de neuf sur LinkedIn? Enzo le stagiaire. Gagner 10 000 euros par semaine grâce à ma formation en crypto? N'importe quoi! Ah là là, les gens gobent vraiment tout. Max, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe désormais le poste de CMO.
Wow, c'est quoi ce poste? Je connais pas.
Ah, Coffee Machine Operator. Ah ouais, là, c'est sûr, tu mérites ton titre. Allez, Myriam a encore posté une citation. Ne laisse personne t'empêcher de réaliser tes rêves. Ah bah oui, tu fais ça très bien toute seule, Myriam. Maryse fête ses 23 ans chez BFM. Toujours pas de promotion, mais mes parents sont très fiers de moi.
C'est qui, Maryse?
Quelqu'un a regardé votre profil, passé à Premium pour voir de qui il s'agit. Ouais, j'ai que ça à faire, hein. Marketing pour les moutons, ça. Erwan, mon chouchou. Comment ça, Open to Work?
Mais non, ce sont des rumeurs, Adeline. Je ne m'en vais pas, je serai toujours là dans Happy Boulot sur toute cette saison. Merci, Adeline. Tout de suite, c'est l'innovation de la semaine.
Happy Boulot, le labo RH.
Et 4 minutes pour tester l'innovation de la semaine aujourd'hui avec vous, Nicolas Fayon. Bonjour.
Bonjour, Erwan.
Vous êtes le cofondateur de Jump, acteur du portage salarial lancé en 2021 en 3 chiffres. 1000 salariés portés pour 100 millions d'euros de volume d'affaires par an, 3000 entreprises qui travaillent avec ces freelances. Vous combinez les avantages du salariat et la liberté de l'entrepreneur, ce que beaucoup recherchent aujourd'hui.
Exactement, il y a de plus en plus de salariés, hein. On l'a vu notamment avec le Covid, qui cherchent à avoir une vie un petit peu plus épanouie, un petit peu plus flexible, avoir plus de sens, être un petit peu plus libre au quotidien. Et de l'autre côté, il y a aussi de plus en plus d'indépendants, de freelance.
Ouais. On en compte 1 million aujourd'hui.
Exactement, ouais, tout à fait, qui cherchent justement à se structurer et qui cherchent à résoudre des vraies frictions, hein, de leur vie quotidienne.
Donc cible potentielle pour vous, hein, c'est quand même un grand marché.
C'est un marché qui est monumental et qui ne cesse de croître.
Aujourd'hui, donc 1 million d'indépendants sur le marché, ce qui fait que vous êtes déjà le deuxième acteur du secteur en France en à peine quoi 1 an et demi d'existence, c'est ça?
Ouais. Bah c'était l'objectif aussi de répondre à une tendance qui est large, qui est sociétale, avec un produit qui est très concret et qui correspond vraiment aux besoins du jour.
Alors 1 million d'indépendants sur quel profil typiquement aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche bien?
Alors ce sera des professions intellectuelles principalement. Donc ça va être des coachs en transition, ça va être des managers, ça va être des développeurs, des designers, des chefs de projet, des chefs de produits.
Donc c'est quand même large.
C'est très large, ouais.
Quel type de public? Est-ce que vous avez un petit peu des statistiques sur l'âge, essentiellement, ouais. Est-ce que c'est des juniors, des seniors, des personnes qui sont en reconversion?
C'est, alors la moyenne d'âge chez nous, c'est 36 ans. Donc c'est des gens qui sont un petit peu établis, mais on voit de plus en plus de jeunes personnes qui cherchent à se structurer, qui cherchent à résoudre voilà, des problématiques du quotidien, l'accès au logement qui est un vrai problème chez eux, le statut, l'administratif qui est aussi un problème chez les jeunes. Ils ne veulent pas forcément devoir avoir un comptable, devoir avoir un avocat. Donc on voit de plus en plus de jeunes arriver chez Jump.
Et là, c'est vous qui prenez ça en charge, tous ces problèmes qu'on n'a plus envie de gérer.
Oui, exactement. Bah, en fait, on va employer les indépendants en contrat de travail, en CDI, au sein de la coopérative. Et ça va leur permettre d'avoir toute une structure, de ne pas avoir d'administratif, d'avoir une protection sociale complète et aussi d'avoir des facilités d'accès au logement.
Donc que des avantages à vous écouter. Il n'y a aucun inconvénient là pour ceux qui font appel à Jump.
Alors on ne les a pas encore trouvés, mais on cherche.
Bon, vous lancez une solution sur mesure, donc vous la citiez, qui est baptisée la coopérative freelance. Vous nous en avez déjà dévoilé les grandes lignes. Pour entrer un peu plus dans le détail, là, pour ceux qui peut-être se disent, tiens, ça peut m'intéresser.
Ouais. Bah, c'est une vraie coopérative, hein. C'est une structure d'accueil qui va aider ceux qui se lancent ou ceux qui sont déjà lancés à se structurer. Et ça va en fait contractualiser avec leurs clients et ça va les embaucher en contrat de travail. Donc ça va faire le pont parfait entre les deux et leur donner un cadre légal pour travailler sans statut si besoin.
Mais ce qui veut dire qu'à la fin du mois, on a une fiche de paie ?
Exactement.
Ouais. Ouais. Mais on n'a pas un salaire fixe.
Non, non, non. On choisit son salaire. Donc on facture, on reçoit l'argent sur son compte bancaire Jump. Ouais. Et à la fin du mois, on peut choisir son salaire en fonction de ce qu'on a reçu.
Et vous savez en moyenne combien gagnent les personnes qui travaillent avec vous ?
Ouais, tout à fait. Bah, nous, on accepte les gens à partir de 2000 euros de facturation mensuelle. Mais c'est vrai que des fois, des salaires peuvent monter jusqu'à 7000, 8000, 10000, parfois même beaucoup plus.
Donc on peut bien s'en sortir avec ce technique quoi, de salariat hybride.
Tout à fait. Bah, c'est un statut qui permet aussi d'atteindre des niveaux de performance financière assez hauts, qui sont quasiment identiques à l'autre entreprise, qui est un statut qui est, par définition, peu gourmand en charge. Donc on atteint jusqu'à 72-73% de net.
Et ça va sûrement continuer à séduire aussi du monde, vu l'ampleur que ça prend aussi, cette nouvelle méthode de travail. Merci beaucoup Nicolas Faillon, cofondateur de Jump, d'avoir été avec nous dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver dès à présent en podcast, en replay, sur notre plateforme RMC BFM Play. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, on reste en contact. L'adresse est affichée en bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à la télé. happyboulot@bfmbusiness.fr. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous envoyer vos questions aussi avec nos experts, nos avocats qui vous répondent tous les week-ends. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.